Fréville PM. L'international. Loïc Tassé.
If rather than leaving with no deal, this house blocked Brexit, that would be a subversion of our democracy. I say to members on all sides of this house, whatever you may have previously concluded, give this deal a second look.
Alors, c'était la première ministre britannique, Madame Theresa May, qui disait essentiellement, si vous votez contre l'entente que j'ai négociée pour sortir la Grande-Bretagne de l'Europe, vous allez porter atteinte à la démocratie parce que les Britanniques ont voté par une majorité pour sortir la Grande-Bretagne de l'Europe et c'est ce que vous allez empêcher. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard. C'est ce qu'on disait hier d'ailleurs.
Absolument.
Hein, c'est exactement ça.
Elle t'a écouté, je crois.
Non, c'est moi qui l'ai écouté hier et j'ai rapporté ce qu'elle avait dit hier.
Tu es
l'a répété aujourd'hui.
Trop humble, trop humble. Alors donc, ils sont en train présentement de voter sur les amendements.
Oui.
On pense que, en tout cas, si on se fie là, sur la presse britannique, il est à peu près acquis que non seulement elle va perdre, mais elle va perdre par un très gros, très, très gros chiffre.
Oui, on pense à 200 voix.
200 voix d'écart.
C'est énorme, 200 voix d'écart. On n'aurait jamais vu ça depuis un siècle au Parlement britannique.
Il y a 650 députés à Westminster. Si c'est 200, ça voudrait dire qu'il y aurait 400 quelques députés qui voteraient contre l'accord et 200 quelques qui voteraient pour.
À peu près. C'est ce qui circule comme chiffre. Ça peut être autre chose. C'est pas tout le monde qui a dit pour qui il voterait.
Non.
Mais c'est ce que plusieurs observateurs voient. On va voir ce que c'est. Alors, ça pose un problème. Si jamais le vote est serré, disons que c'est 50 députés qui votent contre, et puis, parce que il y a personne qui pense qu'elle va le gagner, là. Mais que disons qu'elle
perd par 50.
Par 50. Une petite. Là, c'est possible qu'elle aille à nouveau devant l'Union européenne, qui dise, écoutez,
on
peut
pas
bonifier un petit peu, il en manque pas beaucoup,
oui.
Et ça passerait. Mais si c'est une telle marge de 200, tu imagines bien que, en fait, il y a trop à négocier, là. C'est pas possible d'aller négocier un nouveau projet. Et pourtant, le Parlement est obligé, ils ont voté une loi, ils sont obligés de voter sur un nouveau projet dans 3 jours. Elisabeth May est obligée de présenter un nouveau projet de règlement avec l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle va faire?
Mais non, mais non. Alors là, il y a évidemment toutes sortes d'hypothèses qui circulent, dont certains qui pensent qu'elle pourrait décider de déclencher des élections.
Ça pourrait être une solution, des élections anticipées.
Oui.
Mais
le problème, c'est que l'opposition travailliste, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire.
On ne sait pas.
Ils sont contre ce que négocie May, mais ils ne sont pas, absolument pas commis.
Ils veulent pas d'élection non plus parce qu'ils veulent pas perdre. Non. Tu sais,
c'est une bouillabaisse totale.
Complète tout. Et tu sais, ça, tu m'as demandé de te faire un rappel sur le Brexit.
Alors, vas-y, faisons.
Ça vient, tu sais, d'un sentiment qu'il y avait en Europe. Les gens étaient très, très insatisfaits depuis plusieurs années. Des questions d'immigration, trop d'immigrants, la réglementation très tatillonne de l'Europe qui rentrait dans toutes sortes de domaines et les Anglais se sentaient bousculés dans leurs habitudes. Et puis, tu sais, il y avait, de manière générale, un sentiment de perte de souveraineté en Grande-Bretagne. Et donc, David Cameron, qui était premier ministre en Angleterre, s'est dit, bon, ben voici ce que je vais faire. Moi, je vais négocier un nouvel accord avec l'Union européenne et on va régler ça, ces problèmes de
frustration.
Tu sais. Ouais. On va limiter l'immigration, on va essayer de mettre fin au mécanisme d'intégration de plus en plus prononcé entre l'Angleterre et l'Europe. Donc je vais venir avec vous, je vais vous présenter quelque chose et puis on va voter, on va faire un référendum là-dessus. Et lui était certain de gagner son référendum. Et ce référendum a eu lieu le 23 juin 2016, il a posé la question « Voulez-vous demeurer dans l'Union européenne ?»
Et à la grande surprise.
À sa grande surprise, il y a 51,89% des Britanniques qui ont décidé de quitter, 48,11% qui ont décidé de rester, avec une participation de 72,21%. Donc, ils se sont retrouvés pris au gouvernement anglais avec un référendum, avec des résultats qu'ils ne voulaient pas appliquer. Mais le peuple avait parlé, avait dit non, on sort de l'Union européenne.
Et là, Cameron a dû démissionner.
Il a démissionné.
Et il a été remplacé par l'actuelle première ministre, Mme May. Et Mme May, depuis ce temps-là, dans le fond, essaye par tous les moyens de négocier une entente qui respecterait le résultat du référendum.
Exactement.
Qui respecterait par une entente qui doit maintenant être ratifiée par le Parlement.
Oui.
C'est les tribunaux, en fait, qui les ont obligés à voter là-dessus.
Et le problème, c'est que cette entente, elle a été négociée avec l'Union européenne. Tu ne peux pas renégocier une entente facilement. Il y a la date butoir du 29 mars qui arrive. Ils n'ont pas tellement de temps pour renégocier tout ça.
Alors, donc, qu'est-ce qui arrive le 29? Quelle date en mars, tu dis?
C'est le 29 mars, à 11h du soir.
Il arrive quoi s'il n'y a pas d'entente Ratifié par...
C'est ce qu'on appelle un Brexit dur, c'est-à-dire qu'on sort, on coupe tout, et l'Angleterre se retrouve sans accord avec l'Union européenne, d'aucune sorte, et ça pose des tas de problèmes à tout le monde, au commerce en premier lieu, mais aussi aux ressortissants britanniques qui sont en Europe, aux Européens qui sont en Grande-Bretagne. Les gens craignent beaucoup un Brexit dur.
Et là, ce qu'on craint, c'est qu'une chute massive
de la livre sterling,
bien entendu, effondrement des marchés boursiers.
Plein de choses qui vont... C'est sûr que ça va poser des très gros problèmes si jamais ça se produit comme ça. Ils vont s'en sortir, hein. C'est pas la fin du monde. Mais disons que c'est pas du tout ce qu'on espérait comme scénario jusqu'à présent. Et malheureusement, c'est en train de s'enligner dans cette direction-là. À moins que l'Europe se réunisse à nouveau puis dise très bien, oui, vous avez des élections, on va vous donner plus de temps pour renégocier quelque chose. Mais c'est pas fait encore, ça non plus.
Et syncope. On les envie pas.
Non.
On n'envie pas les Britanniques présentement parce que, comme tu nous le disais hier, il n'y a pas d'issue facile.
Non.
C'est pas vrai que, par exemple, s'il y avait un nouveau référendum, parce qu'un gars comme Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, fait activement campagne pour un deuxième référendum, parce que lui, il est convaincu que s'il y avait un deuxième référendum, la majorité des Britanniques changerait d'idée et voterait pour rester dans l'Europe, ça réglerait le problème, pense-t-il. Mais c'est loin, c'est pas sûr, ça.
C'est pas sûr.
Rappelons-nous qu'au lors du premier, on pensait justement que c'est ça qui allait arriver. Puis c'est pas ça qui est arrivé.
C'est pas ça qui est
arrivé. Puis imagine-toi un deuxième référendum.
Tout de suite après, en deux ans, tu sais, les gens vont dire « Oui, mais vous étiez pas satisfait du premier. » Alors pourquoi on n'en ferait pas un troisième pour repartir?
Non, c'est ça, là.
À un moment donné, ça a plus de sens. Et il y a la question d'Écosse dont on parlait. C'est parce qu'il y a eu un référendum en Écosse pour que l'Écosse se sépare de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Et les Écossais ont dit non.
On se sépare pas,
mais... Si l'Angleterre décide de refaire un deuxième référendum,
il
y a des Écossais qui sont pour l'indépendance qui vont dire, nous aussi, on va faire un deuxième référendum ce cas-là.
Ben oui, c'est sûr. OK. Alors, à surveiller, donc, je vous le dis, chers auditeurs, dès qu'on aura l'information, l'issue du vote, on a prévu donc aller rejoindre une journaliste à Londres. On devrait être capable de la mettre en onde rapidement. Donc, pour nous parler un petit peu de l'atmosphère là, qui va régner dans les minutes qui vont suivre donc ce vote historique. Parlons un petit peu, dans les minutes qui nous restent, là, de cette tension entre le Canada et la Chine.
Oui, parce qu'on sait qu'hier, Justin Trudeau a qualifié d'irresponsable ce qui se passe en Chine. Il a dit, pas irresponsable, il dit, je te le cite, « C'est très inquiétant que la Chine commence à agir de façon arbitraire pour appliquer la peine de mort. » C'est ça qu'il a dit. Il a eu une réponse de Mme Roy, qui est porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Chine, qui a dit « Monsieur Trudeau devrait respecter la primauté du droit, la souveraineté judiciaire de la Chine, corriger ses erreurs et cesser ses commentaires irresponsables. » En termes diplomatiques, elle l'a nommé d'abord.
Ouais.
C'est très fort. Deuxièmement, elle a dit qu'il faisait des commentaires irresponsables. Puis,
elle a même dit, je ne sais pas si tu l'as relevé, « il fait rire de lui ».
Non, ça, j'ai pas... J'ai,
ah
j'ai
oui,
pas
elle a rajouté une phrase du genre « Les commentaires du premier ministre Trudeau nous font sourire ou nous font rire. »
Oui, elle a dit ça hier, que c'était des... Effectivement, elle a parlé de ça hier.
Ça aussi, en termes diplomatiques, là, c'est... de dire le premier ministre du Canada...
Oui, elle se ridiculise.
Voilà, fait rire de lui. Oui,
exactement.
C'est ça.
Mais écoute, c'est complètement... Ce qui est en train d'arriver là est assez terrible. Et il y a plusieurs niveaux de problèmes. Il y a d'abord ce pauvre gars, Schellenberg, qui a été considéré comme coupable, mais qui pourrait être exécuté en Chine. Je ne sais pas comment ça va finir pour lui, mais plus on va...
Je veux pas tomber dans le scabreux, mais c'est des pelotons d'exécution, je pense.
Non, c'est une balle dans la tête et on envoie la facture de la balle à la famille. C'est ça en Chine.
T'es pas sérieux.
Oui, oui. C'est exactement ça qu'on fait.
Et je rappelle pour les gens qui nous écoutent que tu as vécu en Chine quelques années.
Oui, c'est... Mais bon, ce gars-là... Mais il y a maintenant des injections létales aussi. Écoute, le pauvre gars est pris dans le couloir de la mort. La Cour suprême doit décider de son sort. Normalement, ça se fait très vite, comme je disais hier. Mais si jamais ils étirent ça, ben, ce sera une confirmation supplémentaire qu'en fait, il s'agit d'une mesure de rétorsion contre le Canada qui a arrêté Mme Meng, qui est évidemment... cette vice-directrice chez Huawei. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les relations commerciales entre le Canada et la Chine. Ça commence à aller mal. Les deux ministères des Affaires étrangères des deux pays commencent à dire à leurs ressortissants, faites attention si vous allez au Canada pour les Chinois, faites attention si vous allez en Chine pour les Canadiens.
Mais j'ai vu ça.
Mais c'est très mauvais pour le commerce, ça se détériore.
Je comprends, oui.
Il y a un niveau de propagande à tout ça. C'est, on n'est pas du tout. La Chine essaie de faire croire que le système juridique canadien est comme le système juridique chinois. Non.
Contrôlé par l'État,
tout. C'est pas la même chose. Ben la Chine reste un pays autoritaire. Et puis bon, il y a toute la question des relations avec la Chine qu'il va bien falloir remettre en cause parce que ce pays devient de plus en plus autoritaire. Et c'est ça qui est le vrai fond du problème.
Loïc Tassé, je te remercie.
Je t'en prie.
On aura beaucoup de matière à discuter demain. Dans un instant, l'Antarctique qui fond beaucoup plus rapidement qu'on le pensait. L'impact que ça aura chez nous, notamment sur le niveau d'eau dans le fleuve et dans ses affluents. Dans un instant.